Audiolib présente Les apparences. De Gillian Flynn. Lu par Odile Cohen et Julien Châtelet. À Brett, lumière de ma vie, senior, et Flynn, lumière de ma vie, junior. L'amour est l'infinie mutabilité du monde. Les mensonges, la haine, le meurtre même, s'entremêlent en son sein. Il est l'inévitable éclosion de ses contraires, une rose magnifique aux effluves sanglants. Tony Kushner, L'illusion. Première partie. Le garçon perd la fille. Nick Dune. Le jour où. Quand je pense à ma femme, je pense toujours à son crâne. À la forme de son crâne, pour commencer. La toute première fois que je l'ai vue, c'est l'arrière de son crâne que j'ai vu. Et il s'en dégageait quelque chose d'adorable. Comme un épi de maïs dur, luisant, ou un fossile trouvé dans le lit d'une rivière. Elle avait ce que les Victoriens auraient appelé une tête bien faite. Il n'était pas difficile d'imaginer la forme de son crâne. Je reconnaîtrais son crâne entre mille. Et ce qu'il y a dedans. Je pense à ça aussi, à son esprit. Son cerveau, toutes ses spires et les pensées qui circulent dans ses spires tels des mille pattes impétueux frappés de frénésie. Comme un enfant, je m'imagine en train d'ouvrir son crâne, de dérouler son cerveau et de le passer au crible afin de tenter d'attraper et de fixer ses pensées. À quoi tu penses, Amy ? La question que j'ai posée le plus souvent pendant notre mariage, même si ce n'était pas à haute voix, même si ce n'était pas à la personne qui aurait pu y répondre. Je suppose que ces questions jettent une ombre funeste sur tous les mariages. À quoi penses-tu ? Comment te sens-tu ? Qui es-tu ? Que nous sommes-nous faits l'un à l'autre ? Qu'allons-nous faire ? Mes yeux se sont ouverts d'un coup à 6 heures du matin exactement. Il n'y a pas eu de battement de cils, pas de montée progressive. Le réveil a été mécanique. Mes paupières se sont ouvertes dans un déclic, comme celle d'une marionnette inquiétante. Le monde était tout noir. Et soudain, le spectacle commence. 6-0-0, disait le réveil. Sous mon nez, la première chose que j'ai vue. 6-0-0. Ce n'était pas comme d'habitude. Il était rare que je me réveille à 1 heure pile. J'étais plutôt du genre à me lever à des horaires irréguliers. 8h43, 11h51, 9h26. La sonnerie du réveil n'avait pas de place dans ma vie. À ce moment précis, 6-0-0, le soleil est apparu au-dessus de la cime des chênes, révélant sa plénitude estivale de dieu courroucé. Son reflet flamboyait à la surface du fleuve, en direction de notre maison, tel un long doigt lumineux pointé sur moi à travers les fins rideaux de notre chambre. Accusateur, tu as été vu. Tu seras vu. Je suis resté vautré dans mon lit de notre nouvelle maison, que nous appelions toujours « la nouvelle maison », bien que nous fussions revenus dans la région depuis 2 ans. C'est une maison de location au bord du fleuve Mississippi, le type même de la maison de nouveaux riches de banlieue. Le genre de maison dont je rêvais gamin depuis mon pavillon miteux. Le genre de maison qui est immédiatement familier. Une maison neuve, neuve, neuve. D'une majesté sans originalité ni défi que ma femme allait détester. Et détesta. Est-ce que je dois laisser mon âme dehors avant d'entrer ? Sa première réflexion à notre arrivée. C'était un compromis. Amy avait exigé que nous choisissions une location dans ma petite ville du Missouri plutôt que d'acheter car elle espérait fermement que nous ne serions pas coincés là longtemps. Mais les seules maisons à louer s'entassaient dans ce complexe avorté. Une ville fantôme en miniature, pleine de pavillons saisis par les banques. Les prix avaient dégringolé à cause de la récession et le quartier avait fermé avant même d'ouvrir. C'était un compromis, mais Amy ne voyait pas les choses ainsi. Pas le moins du monde. Pour elle, c'était un caprice de ma part, une punition, ma façon vicieuse et égoïste de remuer le couteau dans la plaie. Je la traînais, tel un homme des cavernes, dans un patelin qu'elle s'était employée à éviter, et je la faisais vivre dans le genre de maison dont elle s'était toujours moquée. J'imagine qu'on ne peut pas parler de compromis si seul l'un des deux le tient pour tel. Mais c'était à ça que nos compromis avaient tendance à ressembler. L'un de nous deux était toujours en colère. Amy, en général. Ce grief-ci ne me le met pas sur le dos, Amy. Le grief du Missouri. Mets-le sur le compte de la situation économique, du manque de chance. Mets-le sur le compte de mes parents, sur le compte de tes parents, sur le compte d'Internet, sur le compte des gens qui se servent d'Internet. Avant, j'étais journaliste. J'écrivais sur la télé, le cinéma et les livres. À l'époque où les gens lisaient des choses sur papier, à l'époque où quelqu'un se souciait de ce que je pensais. J'étais arrivé à New York à la fin des années 1990, quand la belle époque rendait son dernier souffle, même si personne ne le savait encore. New York était plein d'écrivains, de véritables écrivains. Parce qu'il y avait des magazines, de véritables magazines, et un paquet avec ça. C'était l'époque où Internet était encore un animal exotique qu'on confinait dans un coin du monde des médias. On peut lui jeter quelques croquettes, le regarder danser au bout de sa courte laisse, c'est mignon, et il ne va pas nous tuer pendant la nuit. Prenez le temps d'y penser. Une époque où les jeunes diplômés pouvaient venir à New York et se faire payer pour écrire. Nous ne nous doutions pas que nous nous lancions dans un métier qui allait disparaître en l'espace d'une décennie. J'ai eu un boulot pendant 11 ans, puis je n'ai plus eu de boulot. Ça a été aussi vite que ça. Les magazines de tout le pays ont commencé à mettre la clé sous la porte, succombant à une soudaine infection provoquée par la crise. Pour les écrivains dans mon genre, des aspirants romanciers, des penseurs ruminants, des gens dont le cerveau n'était pas assez rapide pour jongler avec les blogs, les liens, les tweets, ou pour le dire vite, des vantards vieillissants et têtus, c'était fini. Nous étions comme des fabricants de chapeaux pour dames ou de fouets d'attelage. Notre époque était révolue. 3 mois après mon éviction, Amy a perdu son travail, si on peut appeler ça ainsi. À présent, je peux sentir Amy regarder par-dessus mon épaule et railler la façon dont je me suis attardé sur mon métier et mes malheurs, tandis que j'ai expédié son expérience en une phrase. « Ça, vous dirait-elle, c'est typique. C'est du Nick tout craché. » C'était un de ses refrains. « C'est tout Nick. Il... » Et ce qui suivait, ce qui était tout moi, était invariablement un défaut. 2 adultes au chômage. Nous avons passé des semaines à traîner en chaussettes et pyjamas dans notre salon en ignorant le futur. On entassait le courrier non ouvert sur les tables et les canapés, on mangeait de la glace à 10 heures du matin et on faisait des siestes énormes. Puis un jour, le téléphone a sonné. C'était ma sœur jumelle. Margot était retournée s'installer dans notre ville après son propre licenciement, 1 an auparavant. Elle a une longueur d'avance sur moi en tout, même en des veines. Margot, qui appelait de cette bonne vieille bourgade de North Carthage, dans le Missouri, de la maison où nous avions grandi, et, en l'écoutant, je la revoyais à l'âge de 10 ans, avec sa tignasse brune et sa salopette short, assise sur le ponton du fond du jardin de mes grands-parents, tassée sur elle-même comme un vieil oreiller, avec ses jambes chétives qui se balançaient dans l'eau. Elle regardait le fleuve qui coulait sur ses pieds blancs comme des poissons, déjà suprêmement maîtresse d'elle-même. Go avait une voix rauque et chaleureuse, même en annonçant cette nouvelle glaçante. Notre indomptable mère était en train de mourir. Notre père était déjà pratiquement parti. Son esprit, bilieux, et son cœur, malheureux, s'enténébraient de plus en plus à mesure qu'il approchait à tâtons du grand au-delà gris. Mais apparemment, notre mère allait le précéder. 6 mois, 1 an, c'était le temps qu'il lui restait. Je devinais que Go était allée elle-même rencontrer le médecin. Elle avait pris scrupuleusement des notes de son écriture négligée et elle s'efforçait, les larmes aux yeux, de déchiffrer ses pattes de mouche. Des dates, des dosages.
Oh merde, je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. C'est un 9 ? Est-ce que ça veut dire quelque chose au moins ?
Je l'ai interrompu. Voilà que ma sœur me tendait une tâche, un but, comme sur un plateau. J'en aurais pleuré de soulagement. Je vais rentrer, Go. On va revenir s'installer à Carthage. C'est pas normal que tu sois obligée de t'occuper de ça toute seule. Elle ne m'a pas cru. Je l'ai entendu souffler à l'autre bout du fil. Je suis sérieux, Go. Pourquoi pas ? Il n'y a rien ici. Un long soupir.
Amy ?
Ça, je n'avais pas pris le temps d'y réfléchir. J'avais simplement présumé que je prendrais sous le bras ma femme new-yorkaise, avec ses goûts new-yorkais et sa fierté de new-yorkaise, et que je l'enlèverais à ses parents new-yorkais, en abandonnant Manhattan et son enivrante frénésie futuriste, pour la transplanter dans un petit bled paumé au bord de la rivière Missouri, et que tout irait bien. Je ne comprenais pas encore toute la stupidité et tout l'optimisme dont je faisais preuve, et oui, tout l'égoïsme qui me poussait à une telle présomption. Le malheur que ça allait engendrer. Amy, eh bien, elle sera d'accord, Amy. Là, normalement, j'aurais dit « Amy adore maman ». Mais je ne pouvais pas dire à Go qu'Amy adorait notre mère. Parce que, après tout ce temps, le fait est qu'elle la connaissait à peine. Les rares fois où elles s'étaient rencontrées, elles étaient toutes deux restées perplexes. Amy disséquait leur conversation pendant des jours. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par « comme si ma mère appartenait à une vieille tribu agraire, qu'elle arrivait de la toundra avec une brassée de viande de yak crue et quelques boutons dorés pour faire du troc, dans le dessein d'obtenir d'Amy quelque chose qui n'était pas à vendre. » Amy ne tenait pas à connaître ma famille, ne désirait pas connaître ma ville natale, et pourtant, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que rentrer serait une bonne idée.